Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Diversité culturelle, catholicisme et judaïsme. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. L'antisémitisme au Québec, l'influence nazie et la réaction de l'Église catholique.
Je sais, monsieur, que vous avez des convictions très nettes sur ce que vous appelez la question juive, et c'est de ça que je voudrais que vous nous parliez.
Je vous dirais d'abord, M. Pensier, que personnellement, je crois qu'il y a un problème juif ou une question juive. Et je tiens ces convictions d'après certaines lectures.
Le journaliste Gérard Pelletier à l'émission Premier Plan, janvier 1960. Des lectures, oui, pour alimenter l'antisémitisme, comme le furent jadis les thèses de l'Action catholique, un journal de Québec fondé en 1907. Un quotidien soutenu par l'Église et représentatif des opinions d'une grande partie de l'élite francophone conservatrice. Durant de nombreuses années, l'Action catholique s'est vivement opposée à l'immigration juive. Le judaïsme étant perçu comme une menace à la chrétienté, les immigrants juifs sont responsables de dépravation morale, puisqu'ils répandent des idées modernes et révolutionnaires, en plus d'être des concurrents déloyaux dans le commerce.
Le Bel Âge vous présente sa Gazette Parlée, édition du 5 novembre 1933. Voici d'abord les manchettes.
Le Canada n'est pas un dépotoir mondial, déclare l'éditorialiste de l'Action catholique en prenant position sur l'immigration des Juifs chassés d'Allemagne.
Comment il s'appelait le journal?
L'Action...
Catholique.
Bah! Le journal poursuit, nous aurions bien tort de ramasser les individus dont les autres peuples se débarrassent comme indésirables. Hitler n'est pas aussi noir que veut bien le décrire une certaine presse... américaine, peut-être?
Non, c'est un bon petit garçon, Hitler. Ah.
L'Action catholique commentait en ces termes...
C'est le journal de Québec, c'est l'Action catholique, c'est ça?
Ben oui.
C'est pas mal, ça.
Ben oui, ils ont changé de nom.
Ouais, c'est pas mal.
L'Action catholique commentait en ces termes la résolution d'un échevin de Montréal à l'effet d'interdire l'immigration au Canada. Ah, ça commence à Montréal, c'est quoi? On est mieux de moins parler.
L'Action catholique a recommandé en ces termes?
La résolution d'un échevin de Montréal à l'effet d'interdire l'immigration au Canada des Juifs chassés d'Allemagne par les nazis.
Oui, ben, faut pas oublier une chose, il faut peut-être préciser, n'est-ce pas, la décharge de l'Action catholique de Québec.
Et des échevins de Montréal.
C'est pas le journal que j'admire le plus à la terre, quand même, mais il faut dire que c'était en 1933.
Au bout de Pierre Paquette et Lisette Gervais à l'émission Le Bel Âge 1963, on les entend ironiques et moqueurs à l'endroit de l'Action catholique, un éditorial signé en 1933. Alors, pour nous parler de l'anti-judaïsme au Québec, au début du 20e siècle, mon invité, Pierre Anctil, historien, professeur à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la culture juive, il a publié récemment « Anti-judaïsme et influence nazie au Québec », le cas du journal L'Action catholique, c'est aux presses de l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour, M. Coutier.
Alors, parlons d'abord de ce journal, hein? C'est parce que c'est par le prisme de ce journal que vous avez étudié la question. C'est quoi l'Action catholique?
Alors, l'Action catholique, c'est un journal qui est publié à Québec. C'est le plus important journal de Québec. On calcule entre 30 000 à 50 000 copies par jour, plus que le Soleil à l'époque, et qui a été fondé par le diocèse de Québec, par les œuvres catholiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il porte ce titre. C'est un journal qui a pour mission de porter le message social de l'Église dans les foyers. Il est donc très attaché à la doctrine de l'Église. Il est conservateur, ruraliste et souvent antimoderne et, bien sûr, antijudaïque.
Donc, vous dites un journal important. Est-ce qu'il représente l'ensemble de la société canadienne-française ou c'est plutôt ce courant que vous venez de décrire?
Non, il faut être clair là-dessus. Il y a deux grands courants dans la société canadienne-française. Il y a aussi un courant libéral très présent, autant à Québec qu'à Montréal, le journal Le Soleil, La Patrie, aussi évidemment La Presse, qui sont des journaux à grand tirage, qui sont des journaux sur le modèle américain, qui s'intéressent assez peu à l'idéologie et au courant d'idées, qui présentent plutôt de la nouvelle sensationnelle qui tente d'attirer le lecteur par de l'actualité percutante. Ce n'est pas le cas de l'Action catholique, évidemment, qui, lui, est un journal d'idées, un journal de combat sur le modèle un peu du Devoir, par exemple, et qui, lui, cherche à convaincre ses lecteurs de prendre une position idéologique et politique dans la société.
Oui. En parlant de l'immigration au Québec, début du 20e siècle, début des années 1900, est-ce que le Québec en reçoit beaucoup à ce moment-là?
Au début du 20e siècle, c'est ce qu'on appelle la grande migration. Alors, le Canada tout entier reçoit environ 2 millions d'immigrants entre le début du 20e siècle, alors on parle de 1901, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, 1914. C'est la plus grande vague migratoire de l'histoire canadienne, encore plus qu'aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui a un impact assez puissant. À la fin de la période, on parle des années 20, environ 20 % de la population canadienne était née à l'étranger. C'est très élevé pour un pays jeune et ça a eu un important impact. Par contre, les Juifs, eux, comptaient pour environ 3 à 5 % de cette immigration qui s'est surtout dirigée vers l'Ouest canadien. Ça a eu un impact idéologique, par contre. Le Canada français a eu tendance à se replier sur lui-même puis à rejeter en bloc l'immigration et les immigrants au sein de son propre monde.
Et pourquoi particulièrement les Juifs?
Il y avait des antécédents théologiques, c'est ce que j'ai tenté de montrer, dans l'enseignement de l'Église. Il y avait des position anti-judaïque à l'effet que les Juifs, ne s'étant pas convertis au christianisme au début de l'ère chrétienne, ne méritaient pas la confiance des chrétiens, devaient être mis à l'écart, ne pouvaient pas devenir des citoyens, étaient inassimilables. Et donc, systématiquement, la presse de droite canadienne-française va avoir envers eux une attitude hostile, méfiante, va souvent décrier les commerces juifs et les individus qui prennent la parole dans la société canadienne qui sont de cette origine.
Oui. À l'image, sans doute, de ce qui se passe en Europe, parce que dans les années 30, ben, on voit ce courant, cette montée du nazisme en Allemagne, notamment l'élection d'Adolf Hitler en 1933. C'est un discours qui trouve écho chez nous. Un exemple ici, l'émission Premier Plan, 1960, on y rapporte encore une fois les propos tenus lors d'une assemblée tenue 30 ans plus tôt à Montréal.
Au mois d'avril 1933, alors que parvenaient en Amérique les premières dépêches sur la persécution des Juifs en Allemagne, une assemblée de protestation fut tenue à Montréal pour condamner cette politique des nazis. Puis, quelques jours plus tard, un groupe de jeunes qui comptait parmi les meilleurs esprits de la génération montante organisait une seconde assemblée pour dénoncer la première. Elle fut tenue devant une foule considérable et l'on entendit de la bouche des orateurs les propos suivants choisis entre plusieurs autres de même nature. Si nous avons convoqué une assemblée ce soir, c'est qu'il est grandement temps de répondre à ce cri d'alarme qui a été lancé il y a quelque temps. Le danger juif est un péril imminent. Et encore, pour ce qui concerne les juifs, en voit-on souvent qu'ils s'établissent sur une ferme pour cultiver paisiblement la terre? A-t-on jamais entendu dire que la race juive était une race d'agriculteurs? Ils s'entassent, au contraire, dans les grandes villes où ils abâtardissent le commerce et l'industrie. Si nous n'avions pas autant d'étrangers parmi nous, les nôtres trouveraient peut-être plus facilement de l'emploi pour gagner leur vie. Et enfin, cette perle, il est impossible de piler en Allemagne sur la queue de cette chienne de juiverie sans qu'on l'entende japper au Canada.
Tout ça se racontait à Montréal, devant une foule enthousiaste qui applaudissait, et il serait évidemment très injuste de penser que ces quelques passages, les plus courts que nous avons pu trouver, résumait intégralement la pensée de ceux qui en étaient les auteurs.
Des propos, bien sûr, choquant nos oreilles aujourd'hui. Mais on entend au début, dans l'archive, que c'est une contre-assemblée. Donc, oui, antisémitisme chez nous, mais il y avait aussi, vous l'avez mentionné plus tôt, un discours plus libéral, un discours d'ouverture, de solidarité à ce moment-là.
C'est ça. On voit, il y a deux assemblées suite à l'arrivée au pouvoir d'Hitler et les premières persécutions anti-juives en Allemagne. Et ce qu'on a entendu, c'est les propos de Jeune Canada, qui était un groupe nationaliste. C'était la problématique que je voulais creuser. Quelle a été au Canada français la part du nazisme ou de l'enseignement de l'Église ou du nationalisme classique dans ce refus de l'immigration et de la présence juive. C'est pour cette raison-là que j'ai exploré le journal le plus conservateur qui était publié au Québec à l'époque pour aller au fond de la question. Qu'est-ce qui motivait l'Action catholique? Qu'est-ce qui, sur le plan idéologique, les amenait à cette position?
Oui. Et justement, comment ils réagissent quand l'Action catholique, devant la montée de ce nazisme en Europe et les exemples assez flagrants, même avant la guerre, de persécution? Qu'est-ce qu'on en dit?
Oui. Alors, évidemment, il faut comprendre, l'Action catholique est viscéralement anticommuniste. C'est une position qui est systématiquement posée dans le journal. Alors, quand apparaît en Allemagne un mouvement qui, évidemment, est en soi extrêmement hostile au communisme et qui ne se gêne pas pour dire que le communisme est d'origine juive, et tout de suite, l'Action catholique va applaudir et va juger à prime abord que c'est un mouvement qui est positif pour l'ensemble de l'Europe et possiblement pour le Canada français aussi. On craint énormément l'influence communiste dans le monde ouvrier. C'est une position qui ne tient pas la route très longtemps parce que rapidement, les nazis persécutent aussi les catholiques. Et à partir des années 35-36, l'Action catholique commence à avoir de sérieux doutes parce qu'on voit les conséquences immédiates. Alors, l'Action catholique ne s'intéresse pas tellement aux persécutions juives, mais beaucoup aux persécutions anticatholiques qui ont lieu en Allemagne, ce qui nous mène à un document extrêmement important qui va faire basculer la position. C'est l'encyclique Mit brennender Sorge, ou si vous préférez, avec une brûlante inquiétude de mars 37 du pape Pie XI qui condamne doctrinalement le nazisme.
Et là donc, à ce moment-là, l'Action catholique condamne également ce régime-là?
Oui. Après, à mars 36, il ne reste plus qu'Adrien Arcan et ses fidèles pour continuer d'afficher la croix gammée. L'Action catholique se désengage complètement après mars 37, publie l'encyclique en entier et commence à dire que, en fait, le nazisme est pire que le communisme, ce qui n'était pas peu dire, parce qu'il persécute la foi, persécute les catholiques. En Allemagne, après l'annexion de l'Autriche, 40 % des Allemands sont catholiques. Alors, il y a des gestes extrêmement violents qui sont posés contre l'Église. On saccage, par exemple, les presbytères, on insulte les prêtres, les évêques, et finalement, on emprisonne à Auschwitz. Il y avait une section pour les prêtres catholiques spécifiquement, qui était mieux traitée que les Juifs, évidemment, mais les persécutions vont durer tout au long du régime nazi envers les gens qui ont une foi catholique. Le fond de la question, c'est que les nazis voulaient s'approprier entièrement le contrôle de la jeunesse allemande et voulaient exclure l'éducation chrétienne et catholique et protestante de ce domaine complètement.
Ah oui. Donc, deux ennemis à abattre. Vous avez dit plutôt le communisme, mais également le nazisme. Et d'ailleurs, on va même se réjouir du fait que la Russie et l'Allemagne se fassent la guerre. Le nazisme et le communisme vont s'entre-détruire. C'est un peu ça. Et
oui,
ça, c'est une bonne chose aux yeux de l'Action catholique.
Oui.
Hein, on va entendre un texte à ce sujet. Lecture d'un texte de l'Action catholique paru le 27 juin 1941. Donc, on est durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était présenté à notre radio en 1980.
Que ceci soit bien compris, nous ne prisons pas plus le communisme que dans le passé. Bien qu'en Russie, le communisme revienne peu à peu à l'économie capitaliste, il n'en reste pas moins fondamentalement mauvais. Après avoir abattu l'ennemi qui menace le plus immédiatement le monde, le nazisme, il faudra vaincre le communisme, son frère jumeau. Et l'un des aspects rassurants de la guerre germano-russe, c'est que ces deux ennemis de la personne humaine et de la religion vont se détruire partiellement l'un l'autre, de sorte que les puissances occidentales restées plus humaines et plus spiritualistes, malgré leurs énormes fautes, n'auront pas à compter, lors du prochain traité de paix, avec une Allemagne victorieuse et une République soviétique bénéficiaire de ce combat titanesque. Remercions Dieu d'avoir permis que ces deux États paganisants s'affaiblissent mutuellement au profit des États faillibles, mais chrétiens que sont nos alliés.
Donc, on l'entend, le nazisme est condamnable parce qu'il s'en prend notamment à des pays catholiques, les alliés.
Exactement.
Est-ce qu'on rapporte quand même dans ce journal la violence du régime nazi à l'endroit des Juifs?
Alors, les éditorialistes n'en disent rien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, l'Action catholique n'a pas de correspondant en Allemagne. La plupart des gens au journal ne lisent pas l'allemand, sont donc obligés d'avoir recours à une agence de presse, la United Press, qui, elle, va offrir par abonnement à l'Action catholique des descriptions très claires de ce qui se passe en Allemagne à la fin des années 30, entre autres les persécutions violentes, la nuit de cristal, Kristallnacht, la destruction de près de 200 synagogues en novembre. Écoutez, quand on lit le journal, si même aujourd'hui, on est tout à fait informé, on voit très bien que le lectorat a accès à l'information via une agence de presse américaine, mais pour ce qui est des opinions, l'Action catholique prend beaucoup de temps. Alors, vous avez vu l'extrait. Finalement, l'Action catholique se rend à l'argument que le nazisme est plus dommageable que le communisme. En fait, c'est un grand tournant. Ça va permettre, c'est extrêmement important, ça va permettre aux catholiques qui sont croyants d'aller à la guerre et de lutter contre le nazisme. La participation du Canada français à la Deuxième Guerre mondiale aurait été certainement plus basse et moins, je dirais, fervente si l'Action catholique et d'autres organes de ce genre avaient continué de faire l'éloge du nazisme après 1937. Ce n'est pas arrivé et, en fait, l'Église va se ranger du côté des alliés et va se ranger du côté de la lutte contre le nazisme après 1939.
Oui. Ce qui n'est pas rien quand même. Hein? Et, bien sûr, parce que c'est fondamental. Et ce régime-là, bon, on ne peut plus le défendre. Oublions les nazis un instant, puis revenons à un événement local, hein? Très local. Là, on est vraiment à Québec, la ville de Québec. Vous consacrez une large partie de votre ouvrage sur le cas de Maurice Pollack, un commerçant juif du quartier Saint-Roch à Québec, qui souhaite ouvrir un grand magasin. Et ça, c'est très mal accueilli par le clergé. On est dans les années 30, là.
Oui. Alors, il ouvre son magasin en novembre 31. Alors, j'avais deux grands objectifs. Suivre la trajectoire idéologique de l'Action catholique, mais j'avais aussi, dans le cas du magasin de Maurice Pollack, un exemple précis, bien circonscrit d'un événement, l'ouverture d'un magasin juif et comment l'Action catholique réagirait. Et ce qui est très intéressant, c'est que le journal a pu placer de la publicité dans l'Action catholique jusqu'en décembre 32. Jusque-là, une fois par semaine, Pollack annonçait. Pollack était très prudent et était très bien intentionné envers le nationalisme canadien-français, envers les catholiques. Et tout à coup, la communauté juive veut construire une synagogue à la Haute-Ville en novembre 32 dans la paroisse Saint-Dominique. Et là, l'Action catholique réagit très violemment, coupe toutes les annonces de Pollack et s'en prend à lui, craignant qu'une synagogue à la Haute-Ville sonne le glas des paroisses canadiennes-françaises. Alors là, il y a vraiment un vent de panique qui a passé. Et ça n'a pas empêché Pollack de poursuivre sa trajectoire, d'annoncer dans le soleil et d'attirer de la clientèle. Il a réussi son pari largement. Mais l'Action catholique, elle, en se privant des publicités de Pollack, va connaître un déficit financier important qui va emporter le journal, finalement, quand la Révolution tranquille va avoir lieu.
Oui. Et qu'est-ce que ça nous révèle, cet épisode de Pollack, justement, sur l'épisode de la synagogue et le fait qu'on s'offusque à ce point qu'on va jusqu'à refuser même la publicité de son magasin, qu'on se prive de revenus.
Alors, ça montre que finalement, l'Action catholique n'est pas capable, ne réussit pas à faire la paix avec la minorité juive de Québec, qui compte environ 500 personnes.
C'est ça, qui est toute petite, c'est marginal, là, quand même.
C'est très peu. On parle, en gros, d'une trentaine de petits commerces dans les années 30 dans le bas de la ville, à part le magasin de Pollack. Donc, petites entreprises très limitées, l'Action catholique ne réussit pas à se réconcilier parce qu'elle continue de croire, continue de véhiculer l'enseignement de l'Église, l'Église préconciliaire avant Nostra Aetate, qui va amener une réconciliation avec le judaïsme au sein de l'Église catholique. Mais là, on est beaucoup plus tard, en 65, et c'est Paul VI. Alors, pendant toutes ces années, l'Action catholique va maintenir une position d'hostilité, de méfiance, et va encourager les lecteurs à ne pas aller chez les marchands juifs. Ce qui n'a pas d'impact vraiment, on le voit, parce que Pollack va réussir finalement. à avoir plus grand magasin encore dans les années 50 et va faire un don important à l'Université Laval en 55.
Oui. Si bien qu'un pavillon, je pense, hein, qui porte son nom aujourd'hui. Bon, ça ne nuit pas à ses affaires, mais par contre, il y a certainement un climat général d'anti-judaïsme à Québec. Un témoin de cette discrimination envers les Juifs, quelqu'un qui a bien connu justement Maurice Pollack, parce qu'il travaillait dans son magasin, à son magasin, lorsqu'il était tout jeune, adolescent, Joseph Weiser, qui raconte ses souvenirs à Québec, au micro de Jacques Lacourcière, 1996 à notre radio.
Quels sont vos principaux souvenirs d'un enfant juif dans un quartier francophone?
Vous savez, la vérité, je vais vous en dire.
Non, dites la vérité. vous êtes comme au tribunal, M. Weiser.
On est capable d'en prendre.
Non, c'était très difficile. Il y avait l'antisémitisme qui était très, très fort dans ce temps-là. On a vécu une période incroyable. J'ai participé beaucoup à le sport à Québec, le hockey surtout. Et puis, quand on avait une mauvaise partie, l'équipe avait une mauvaise partie, bien, le maudit juif ne faut pas jouer ce soir-là. Sérieux, j'ai vécu avec ça, maudit juif. On n'était jamais invité dans une maison francophone. On pouvait jouer avec des enfants dehors dans la rue, mais c'était tout. Puis les écoles, bien, on n'était pas acceptés dans les écoles catholiques. C'est Duplessis, avec tout ça, qui a forcé les Anglais, par loi, d'accepter tous les immigrés dans les écoles. C'est pour ça qu'on parle toujours. On était les écoles anglophones et non francophones.
Joseph Weiser, en 1996, et plus tard dans l'entrevue, ben, il va aussi évoquer cet épisode de la construction d'une synagogue dans la haute ville de Québec. Est-ce que ce courant antisémite a été plus fort à Québec qu'ailleurs?
Écoutez, je dirais que non.
Non.
Il s'agissait d'une très petite communauté de 500 personnes. En fait, c'était moins de 1 % de la population, pour être exact, 2,25 %. C'est ça qui a été le problème à Québec, c'est que les Juifs étaient beaucoup plus visibles parce que la diversité immigrante, la diversité culturelle et religieuse à Québec était pratiquement absente. Dans un grand centre comme Montréal, où il y a énormément de diversité, où il y avait des dizaines de synagogues et des centres culturels juifs, c'était beaucoup moins senti sur le plan personnel et direct. Je comprends bien le point de vue de Weiser. Je pense que, en effet, dans certains cas, il y a eu des difficultés de communication. La question des écoles, si les francophones avaient accepté les personnes d'origine juive dans leurs écoles en français, ça je pense, énormément améliorer la situation. Mmh. Mais la loi de 1903, qui est une loi provinciale, avait décrit les Juifs comme étant protestants et donc ils vont être tous, même à Québec, ils vont tous être à l'école anglophone protestante. Et c'est ça aussi, ça a créé un fossé très difficile à combler.
Oui, ben tout à fait. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, hein, bon nombre parlent plutôt l'anglais. Hein. Il faut remonter à 1903. Pierre Anctil, mon invité, fort intéressant, historien, professeur à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la culture juive, et je rappelle qu'il a publié récemment cet ouvrage qui a pour titre « Anti-judaïsme et influence nazie au Québec, le cas du journal L'Action catholique ». C'est aux presses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci, M. Coutier.
Merci à vous. En terminant, merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Caroline Morin, Catherine Courchaine et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet, c'est Ronald George. Aujourd'hui l'Histoire est une émission de Mathieu Beauchamp, mise en onde Jean Lemieux. Ici Maxime Coutier. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. À une prochaine. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.